Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette émission est en direct et cette semaine, on va parler d'inventer des vélos. Mais avant d'évoquer les inventions, Cause Commune, une radio libre et associative, des émissions intelligentes, au moins celles des autres de mes confrères, une radio qui existe grâce à vos dons. Prenez donc 5 minutes, faites un don, il sera déductible de vos impôts en plus et c'est la période de la déclaration des impôts. Là, si vous donnez en 2025, ce sera pour vos impôts de l'année prochaine. Merci à vous qui nous écoutez, partagez ces émissions, recueillez-les et vous pouvez les écouter en streaming sur notre site dans le poste du 93.1 FM quand vous êtes à Paris, en écoute à la demande, la ROD, Radio On Demand, c'est le podcast quoi. Oui, mon invité, il invente des vélos et moi je me contente d'inventer des acronymes, chacun son talent. Avant d'inventer, je m'interroge, donc je vous interroge, ne faisons-nous pas fausse route quand on cause de vélo, à raconter le vélo comme une aventure, comme une expérience pleine de surprises, le mot aventure. Notre société l'idolâtre ce mot-là, on pousse les enfants à vivre des aventures. On adore les films, les romans d'aventure. C'est parfait, un film d'aventure, pour nous sortir du quotidien, nous explique Télé Loisirs. L'aventure, c'est du frisson. Moi, quand on me parle d'aventure, je vois Mike Horn descendre l'Amazonie à la nage. Je me souviens de mes lectures de Jack London avec Cro-Blanc. Je vois Indiana Jones et Lara Croft. Ce n'est que bien plus tard qu'avec le temps que j'ai compris qu'associer le mot aventure, on pouvait associer par exemple Modestine et Robert Louis Stevenson. L'aventure, n'est-ce pas un luxe finalement? Le luxe de ceux ou celles qui ont du temps et de l'argent. Elle peut être perçue ainsi, en tout cas par ceux, celles qui ne veulent pas d'aventure. Ces personnes vivent sous un ensemble de contraintes imposées ou acceptées, subies ou provoquées. On a tendance à moquer, à dénigrer la routine métro, boulot, dodo. Et si en évoquant le vélo, on apprenait à assumer la même routine, vélo, boulot, dodo. Si le message autour du vélo était zéro imprévu, zéro contrainte, zéro aventure, choisissez le vélo et restez éloigné des contretemps. Vous qui pédalez au quotidien, combien de fois revient cette question de vos interlocuteurs ou interlocutrices qui ne pédalent pas? Et quand tu crèves, tu fais comment? L'aventure, éventuellement, on la cherche pendant les vacances, le week-end, mais l'aventure, est-ce qu'elle est compatible avec le quotidien? Et si le vélo gagnait à ne pas être une promesse d'aventure? Vive le vélo, boulot, dodo! Et avec le vélo, boulot, dodo, viens, ce sera bon. Je crois que mon invité est dans cette démarche, ce raisonnement, proposer, penser, inventer des vélos qui répondent à des besoins avant de répondre à des envies, les besoins d'une routine quotidienne. Plus que les envies d'une aventure d'une vie, Christophe Milot est un self-made man, un penseur et un faiseur, un entrepreneur aussi. Inventer des vélos, c'est facile, je sais pas. Et inventer des vélos en France, c'est passer du prototype à la petite série. Est-ce que c'est une aventure? Et de la petite série à la production industrielle, une routine. Bonjour Christophe Milot, merci d'être au micro de Rayon Libre aujourd'hui.
Bonjour Jérôme, et bravo pour cette introduction.
Merci. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Christophe Milot, est-ce que vous définir comme un inventeur de vélos, ça vous va?
Ça me semble une bonne définition, oui, tout à fait. Je me considère assez comme inventeur en général, ouais. Et plus précisément ces 10 dernières années comme inventeur de vélo, oui.
Et alors, la question suivante dans ce cas-là, c'est pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'inventer des trucs et des vélos? Est-ce que tout ça n'existe pas déjà?
Alors, c'est une vraie bonne question. C'est vrai qu'on pourrait considérer que tout existe à peu près. Quand j'ai pensé le vélo, je travaillais pour le groupe Keolis, qui est un groupe qui s'occupe de transport en commun, qui opère des gros réseaux de transport en commun. Ouais. Et en fait, bon, on pourrait se dire que le réseau de transport en commun, ça existe partout et qu'il n'y a rien à inventer. Et en fait, si. J'ai retenu une leçon de cette expérience chez Keolis, c'est la nécessité de penser les usages avant de penser le produit. En l'occurrence, pour Keolis, c'est le service, mais pour le vélo, c'est le produit. Savoir quel est réellement le besoin de l'utilisateur final, pourquoi est-ce qu'il va choisir tel ou tel vélo, et s'il ne fait pas de vélo, qu'est-ce qui pourrait lui manquer? Et il m'a semblé qu'il manquait quelques cases dans la grille, et c'est comme ça que je me suis dit, puisque j'ai analysé ce manque, est-ce que je suis en mesure d'y répondre? Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner mes premiers vélos, ouais. Sans absolument rien y connaître, en dehors de mon passé de conducteur de vélo et de mobylette et de moto, mais ça s'arrêtait là.
Mais c'est intéressant, ça veut dire que qu'est-ce que vous faisiez chez Keolis? Vous étiez ingénieur? Vous dessiniez des tramways?
Non, je ne faisais pas ça. J'étais une sorte d'un peu d'électron libre. Je m'occupais beaucoup d'innovation en direction de l'information voyageur.
Oui.
Donc j'étais vraiment sensibilisé. J'ai créé le premier compte Twitter pour un réseau de transport en commun en France, par exemple. C'était, je crois, de mémoire, en 2009.
Oui.
Et très rapidement, c'est un compte qui a connu un gros succès à l'intérieur des réseaux, d'abord, et puis un peu aussi autour. Et j'étais en contact direct avec les utilisateurs finaux, donc qui utilisaient
vos solutions.
Et au quotidien, je voyais leurs problèmes, alors qu'on se disait qu'on avait quand même un métro toutes les 5 minutes, des bus ultra performants, parce que Rennes, où j'habite, est un réseau qui est réputé pour sa qualité.
Ouais.
Et je me disais, malgré tous les services qu'on peut offrir, il y a des manques, et tout le temps. Et ils sont tous plus divers et variés les uns que les autres. Et quand est arrivé le vélo, enfin quand j'ai commencé à m'y intéresser, on va dire en 2010, je me suis dit, oula, vélo électrique, ça va changer la donne. Je ne savais pas trop comment, mais ça va changer la donne. Et je l'ai intégré dans mes réflexions en construisant des outils d'information en direction des voyageurs ou en travaillant sur des réponses aux appels d'offres du réseau. Et effectivement, ça a changé la donne littéralement et de manière très très rapide.
Donc vous l'aviez vu déjà en 2009-2010. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors ça revient un peu, je vais ramener un peu le sujet au vélo, mais la première question c'était, est-ce que on n'a pas déjà tout inventé sur les vélos? Mais est-ce que vous êtes d'accord, au 21e siècle, on n'a pas inventé le gravel, on a juste modernisé une proposition existante, on n'a pas inventé le vélo cargo, on a juste modernisé et adapté. Est-ce que inventer et adapter, c'est la même chose?
Est-ce que inventer et adapter? Oui, je pense que oui, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Donc,
Lavoisier.
Je pense que tout existe. Tout est déjà, tout existe. Et effectivement, c'est une amélioration des produits à l'aide soit des technos d'aujourd'hui. Alors, moi, je suis pas un féru de techno. Je pense que le vélo peut très bien s'en passer, mais ça, c'est un autre sujet.
Oui.
Mais oui. On améliore les cadres, on améliore les composants, les tiges de sel suspendues. Ce sont des petites améliorations, mais au final, quand on les met en commun sur un cadre bien pensé, avec un certain nombre d'accessoires et de composants bien implémentés sur le vélo, on obtient quand même des véhicules qui se différencient les uns des autres. Hein. On ne compare pas, par exemple, un Load 65 avec un Urban Arrow, alors que ce sont tous les deux d'excellents vélos cargo, ou encore un petit porteur avec,
avec un GSD interne ou peu importe,
qui sont tous les deux des vélos sympathiques comme tout. Et pourtant, alors après, il y a évidemment l'aspect plaisir, l'objet est beau. Un vélo, quand c'est bien fait, un vélo, ça c'est beau.
Ouais.
Après, c'est subjectif, hein, bien entendu, mais moi, je trouve qu'un beau vélo, ça se voit à l'œil.
Ça doit créer une émotion.
On aime rouler sur des beaux engins, finalement.
Ouais,
on a tellement l'habitude maintenant de se déplacer à l'aide de différents engins que quand ils sont beaux, quand en plus ils peuvent être beaux, c'est attirant. Quoi.
Je voudrais revenir quand même, parce que vous me disiez que votre formation n'était pas du tout dans le dessin de cadre de vélo ou le dessin de vélo. Et on a quand même vu certains designers, dont c'est le métier de designer, proposer des vélos qui sont absolument merdiques. Est-ce que je vais pas citer de nom, vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur, vous, de votre côté, quand vous vous mettez à dessiner des vélos en partant d'une feuille blanche sans forcément vous y connaître plus que ça?
Ah ouais, tout à fait. Non, mais ça, c'est certain. Mais bien sûr. C'est complètement empirique comme approche. Moi, j'ai une approche empirique. Je suis pas designer. J'ai travaillé avec des designers de vélos, comme l'atelier Mixure, hein, qui est un designer de grand talent pour moi, et extrêmement discret, qui, lui, pour le coup, ne prétend pas être bon alors qu'il l'est définitivement. Donc je travaille avec eux pour leur approche, etc. J'essaye de m'en inspirer, mais bien sûr il y a une part d'imposture. Hein. Et quand on se fait livrer un vélo, mon premier vélo c'est le Galian, qui s'appelle maintenant le Formidable.
Ouais.
C'est mon premier dessin. Je me souviens des tout premiers dessins que j'ai présentés à Antidote Solutions, que vous devez connaître.
Hein, oui, Antidote Solutions, qui est aussi un studio de design spécialisé dans le monde du vélo. Et ils sont du côté de Mio, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment des techniciens du vélo.
Ouais.
Par contre, c'est des bibles. Hein. Et quand ils m'ont gentiment accueilli, ils m'ont pas envoyé dans mes pénates. Ils m'ont dit bon.
Sur Twitter, à animer le compte Keolidis. Oui, pardon, allez-y.
Non, il n'y a pas de problème. C'est pas tout à fait fonctionnel. L'idée est sympa, tout ça. Toi, bon, ton approche nous plaît bien, mais il faut que tu revoies deux, trois trucs. Et avec eux, j'ai essayé de m'ajuster. Moi, je prétends. C'est pour ça que je dis pas que je suis designer, mais je dis que je suis créateur de vélos.
Ouais.
Parce que, en fait, j'essaye de concevoir des engins. Alors là, c'est des vélos, mais au départ, j'ai commencé, c'était un 4 roues, hein. C'était une sorte de Rosalie améliorée sur laquelle je voulais mettre 4 moteurs électriques de vélo. Enfin bon. c'est l'idée de dessiner et d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pense être juste. Parfois c'est bien, parfois ça l'est moins, mais au moins on ne peut pas se reprocher de ne pas l'avoir fait.
Quel a été votre parcours entre Keolis, Galian? Je sais que vous avez aussi travaillé pour une entreprise qui s'appelle Seabox. Aujourd'hui, vous êtes à votre compte avec une entreprise qui s'appelle Freebox, Freeporter, ou Free, oui. Free, je ne sais plus, Free,
Freeporter.
Je dirais, c'est pareil, c'est de manière empirique, quand vous travaillez pour le Galian, puis après pour Seabox, puis après pour vous, vous apprenez de manière empirique et vous décidez en 2025 que bah, finalement c'est pour vous-même qu'il faut travailler.
C'est un peu ça, ouais, ouais. C'est un peu ça. Quand j'ai commencé avec Galian, c'était très empirique. Ouais. J'ai fait un peu mes armes sur le sujet. On a réussi à faire un très beau vélo. Bon, alors en plus, j'ai voulu le faire entièrement made in France parce que j'avais une volonté de réindustrialisation du territoire. Et là, sincèrement, ça a été des écueils les uns derrière les autres. Je vais pas me plaindre, mais enfin, ça a été vraiment difficile. Il n'y avait pas d'écosystème. Ils existaient, Antidote et Milk, mais ils n'étaient pas connus. Ils étaient à peine référencés sur Internet. J'ai passé des heures et des heures incalculables à essayer de trouver un écosystème et des partenaires pour pouvoir faire ce vélo. On a réussi à le faire, bon, pour différentes raisons. Moi, j'ai décidé de me séparer de mes associés, donc je leur ai vendu tout, le design, mais l'ensemble de ce qu'on appelle les actifs à la société. Mais ça a été une grosse expérience et je me suis dit, bon, elle n'est pas mauvaise cette expérience, elle est parce que le vélo existe, il fonctionne très bien, il est sympa, bon, soit il coûte un certain prix parce qu'il est entièrement fabriqué en France, mais j'étais assez satisfait de ne pas m'être trop trompé, c'est-à-dire d'avoir quand même pris l'avis des professionnels. Je ne suis pas allé tout seul en me disant dans mon garage, je vais faire le plus beau vélo du monde, comme certains qui récemment ont pas mal défrayé la chronique avec leur meilleur vélo du monde.
Ouais.
Malheureusement, moi, je me suis dit tout l'inverse. Moi, je ne suis pas capable de faire le meilleur vélo du monde. Je vais essayer de faire le meilleur vélo que moi, je pense.
Ouais.
Et déjà, ce sera pas mal. Et on a fait gagner. Et ensuite, j'ai repris l'ensemble des études sur le sujet qui m'avait permis de construire Galian et m'étais dit, bon, à la lumière de ce que tu sais maintenant du vélo, du marché, de ton expérience en termes de production d'un ou moins d'un prototype, comment tu referais si tu devais faire? Et j'ai donc commencé à dessiner Freeporter.
Oui.
Et là, je me suis dit, je vais le faire différemment. Et bon, moi, j'ai pas de prétention à devenir un chef d'entreprise ou un industriel. C'est pas dans mes compétences. Et je me suis dit, je vais m'adosser à des professionnels. Et j'en ai parlé à droite, à gauche. Alors, tous les professionnels qu'on connaît, bon, ils m'ont répondu gentiment. Mais enfin, a priori, je les intéressais pas trop. Et j'en ai un qui s'est intéressé à moi, qui s'appelle Seabox. J'ai pas très bien compris pourquoi ils s'étaient intéressés d'ailleurs à mon projet, parce que c'est pas du tout leur champ d'action finalement.
Oui, Seabox, c'est pour la petite, pour préciser aux auditeurs, auditrices, ils se sont installés là où les cycles Mercier dans les Ardennes, sur la friche Electrolux. Ils annoncent vouloir produire jusqu'à 150 000 vélos par an. Là, je regardais, en mars, ils annonçaient les premiers vélos sortiront d'usine en avril 2025. Pour l'instant, ils sont encore très discrets, ces gens-là.
Ils sont encore très discrets. Ce sont des plutôt au départ des importateurs de produits asiatiques qui distribuent pour la grande distribution.
Ouais.
Et bon, ils ont trouvé cette friche industrielle sur laquelle il y avait pour eux un projet industriel à mener, business ou industriel, je ne sais pas trop. Et c'est vrai qu'ils m'ont contacté en me disant « Oui, viens, ton produit nous intéresse, ton Freeporter nous intéresse, mais on voudrait aller plus loin. On voudrait que tu nous dessines une gamme de vélos. » Donc, j'ai dessiné une gamme de vélos. Et puis, au bout de deux ans, j'ai bien vu qu'ils n'allaient pas faire mon Freeporter, et on trouvait plus de terrain d'entente, et on s'est séparés.
Oui.
Et je me suis retrouvé avec mon vélo. J'ai dit, bon, ça commence à bien faire. Maintenant, je connais quand même l'ensemble de l'écosystème de production de vélos, enfin, en tous les cas, de prototypes. Même si je voulais le faire en série, c'est tout à fait possible aussi. Et ceux qui me répondent le plus et le plus vite, et qui sont, disons, le plus à l'écoute de ce que je fais, ce sont aujourd'hui, c'est en Asie.
Oui.
J'aurais adoré que ça se passe en France, mais c'est en Asie. Et ils sont vraiment extrêmement disponibles, extrêmement efficaces, extrêmement rapides, et à des coûts qui sont corrects. Mais je pense des coûts qu'on peut maintenant pratiquement avoir en France. Sauf que je n'arrive pas à intéresser l'écosystème français plus que ça.
Et ben on va en parler en deuxième partie d'émission, de justement de se produire en France et de cette expertise qui est en Asie. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes en train d'écouter Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune. On est en compagnie de Christophe Milo, qui est inventeur de vélo. Il est sur son projet Freeporter. Il vient de présenter ses premiers prototypes sur des vélos cargo, des biporteurs, avec l'ambition de les proposer à 2 500 €. On y reviendra d'ailleurs là-dessus. S'il a les bons partenaires, on en parlera en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va s'écouter un truc qui s'appelle Life is Dead de Cannibal. Life is Dead, on n'a rien inventé. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite sur Cause Commune.
Mmh. me dead. Now I am bitter, I am upset. I want you dead, cause I am upset. Now you are dead though, we are upset so. We want to leave but life is dead so. Now you are dead though, we are upset so. We want to leave but life is dead so. Saying that I wanted you not to be alive. So I killed you and then you said I want to kill you despite I'm dead.
Don't worry, you will get yours.
Then I died because of that kid. Incapacitated me to leave. Then I died and because of that kid. Incapacitated me to leave.
Don't worry, you will get yours.
We were dead. We wanted to live. Nevertheless, both of us were killed. We were dead, but we wanted to live. Nevertheless, both of us were killed.
Don't worry, you will get yours.
You want me dead. Now I am dead, so I am upset.
Nous sommes de retour, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, vous écoutez Rayon Libre et on est avec Christophe Milot sur son profil LinkedIn. Il s'annonce spécialiste des mobilités cyclables, créateur de vélos et de solutions inventives. Il est le fondateur de l'entreprise Fiporter et avant de lui redonner la parole, notez dans vos agendas ce vendredi soir, le 23 mai à Paris à l'Académie du Climat, la première projection du documentaire COP29 Bike Ride. Nous recevions Guillaume Autrage ici même il y a quelques mois, c'est à 19h et j'y serai et je me demande est-ce que vous y serez également. Christophe, vous êtes toujours là.
Absolument.
Vous disiez donc à l'instant, en première partie de l'émission, que la réponse et l'intérêt sur vos vélos Freeporter, elle vient surtout de l'Asie, quand vous dites malgré tout que le savoir-faire, il pourrait être en France, hein, c'est ça ?
Ah ben, tout à fait. Hein. On a tout aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour faire des vélos en France. Il y en a qui le font, hein, Radior, etc. Qui
ouais. arrivent, 12,
Optima, Moustache. Etc. Donc, ouais. il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui.
Ouais.
Ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans, mais ça s'est quand même bien, bien démocratisé maintenant.
Et alors, comment vous expliquez que l'intérêt ou l'attraction sur vos solutions Freeporter, elles viennent surtout d'Asie ?
Je ne me l'explique pas bien, à vrai dire. Je pense que c'est quand même un fonctionnement. C'est-à-dire que j'ai remarqué une chose, c'est que pendant ces 10 années d'expérience, quand on envoie un mail en France, il faut compter entre une semaine et 15 jours pour avoir une réponse.
Oui.
En Europe de l'Est, vous descendez à 1 ou 2 jours, et en Asie, vous êtes à 1 ou 2 heures.
Oui.
Alors déjà, je pense qu'il y a une dynamique de fond qui fait que ça va quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Alors quand on est en phase de création, on a envie d'aller vite, on a envie de contact rapide. L'Asie a une fâcheuse, tendance, c'est pas une fâcheuse d'ailleurs, mais à ne jamais dire non.
Oui.
Ça veut pas dire qu'ils vont pouvoir le faire. Enfin, ils ne disent pas non. Donc, la discussion est toujours ouverte. Donc, on progresse, on itère plus rapidement.
Oui.
Et voilà, en fait, hein, parce que après, faire un prototype et le rapporter, c'est pas forcément tellement plus simple que le faire en France, mais je ne sais pas. La dynamique n'est pas la même. Je m'explique pas bien.
Ouais. Ce que, en préparant l'émission, hein, j'ai passé un petit moment sur l'article de Loïc Montrezin sur wheels.west-france.fr qui résumait, je pense, assez bien votre vision et vos envies sur Freeporter. Ce qui m'a notamment intéressé et entre guillemets choqué, c'est que vous promettiez, ou en tout cas, il y a une promesse de prix pour proposer des vélos cargo autour de 2300, 2500 euros. On peut faire des bons vélos à 2300, 2500 euros en France ou en Asie pour les importer ensuite ici en France?
Je suis peut-être un peu emporté sur le prix. maintenant que je me suis fait livrer le prototype et que j'ai vu ce que ça avait coûté,
ouais.
Non, objectivement, j'étais parti. Enfin, d'ailleurs, c'est Seabox qui m'a persuadé qu'on pouvait le faire à ce prix-là, et puis en fait, je me suis aperçu en le faisant moi-même que c'était pas tenable.
Ouais.
Non, ça me paraît difficile. On peut avoir des vélos tout à fait corrects. En vélo cargo, entre 3000 et 3500 euros, ça,
ouais,
c'est possible.
Ouais.
En Asie, hein, bien sûr. En, ouais, France, je pense qu'on va quand même plutôt être sur un 4000, 4500, 5000. Quoi.
Et vous parlez de vélo équipé de moteur à assistance électrique ou de vélo sec?
Oui, vélo électrique, ouais, tout à fait.
Ouais. Vélo électrique. C'est un vrai sujet, ça, quand même, malgré tout, le prix, parce qu'on est... un vélo cargo en dessous de 3000 euros, c'est compliqué de le proposer et d'avoir un vélo qui soit durable et qui soit agréable et, comme vous disiez, ouais, aussi juste avant, qui soit un peu sexy, quoi.
Non, mais tout à fait, c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça que dans mon approche, ça fait partie des choses que j'avais intégrées, ouais, de mon expérience Galian, c'est que j'utilise du tube, je ne fais pas d'hydroformage, pas de montage trop compliqué, quoique sur Freeporter, j'ai peut-être poussé un peu loin,
ouais,
c'est un vélo quand même assez consistant. Les moteurs, dès qu'on touche au moteur, aux batteries, aux boîtes de vitesse,
ouais,
en l'occurrence, j'ai pas de dérailleur, mais un Nexus dessus, une courroie plutôt qu'une chaîne, bon, ça augmente un peu les prix, mais enfin, finalement, les prix asiatiques des composants sont à peu près les mêmes en Asie qu'en France. Il y a peut-être un effet de taxe,
ouais,
mais qui ne doit pas être si consistante que ça. Donc, ce n'est pas tellement le prix des composants, à mon avis, qui joue. C'est essentiellement le prix de la main-d'œuvre pour cadrer un vélo. Alors,
ouais,
déjà, des cadreurs, à part des artisans d'exception, ça, on les a. Mais pour faire du cadrage en série, on n'a pas.
Ouais.
Ça, c'est pas possible.
Ouais.
Mais enfin, au moins, sur du prototypage, le prix d'une heure de cadreur en France, c'est pas celui d'une heure de cadrage en Asie. C'est là que ça se joue, en fait, hein, je pense.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer de différent avec vos vélos Freeporter, qui n'existent pas déjà?
J'espère être capable de proposer, alors Freeporter, Freetail, Freecity, qui sont trois modèles de vélos un peu différents, j'espère pouvoir proposer des vélos qui remplissent tout ce que la voiture remplit au quotidien et dont normalement on ne devrait pas avoir besoin.
Oui.
J'ai une étude qui m'a marqué, hein, qui date de 2013, qui a été faite par, c'est un nom hollandais, donc je ne vais pas vous le redire, je ne vais pas y arriver, mais qui est,
ouais,
très très poussée, très complète, et qui finit par faire ce constat-là. Le problème, c'est la rupture d'usage. C'est exactement le même problème qu'on rencontrait dans les transports en commun, c'est que,
ouais,
vous prenez votre voiture, quand avec le bus ou avec le métro, vous n'arrivez pas à remplir l'ensemble des usages de la journée,
ouais,
ce qu'on appelle une mobilité sans couture,
ouais,
et ben le vélo, moi je construis des vélos qui sont faits pour cette mobilité sans couture. C'est-à-dire que le matin, je dois pouvoir me dire, je ne vais pas prendre ma voiture parce que avec mon vélo, je vais pouvoir faire l'ensemble de remplir l'ensemble de mes besoins.
Ce qu'on appelle dans le milieu de la mobilité les parcours chaînés, c'est-à-dire une dépose d'enfants à l'école, ouais, et puis après une course au marché ou peu importe chez le boulanger, puis après le bureau, et puis après aller au Pilates, peu importe.
Et c'est exactement ça. Et ramener ses gamins, ramener un pack d'eau, enfin tout ce qu'on veut, aller au sport, c'est exactement ça. Et donc moi je me suis dit, bon, évidemment, bah, un vélo cargo, on peut en prendre un, mais enfin, je trouve que les vélos cargo sont plutôt faits, peut-être en dehors de certains, mais globalement plutôt faits pour transporter la famille.
Ouais.
Il peut le plus, peut le moins, hein. On peut aussi mettre du carton dedans, mais enfin, ça fait des gros vélos. Enfin, donc, je me suis dit, je vais compacter tout ça et je vais le faire en mode, j'essayais de faire des vélos robustes.
Ouais.
C'est-à-dire pas d'électronique, du tube, des composants le plus qualitatif possible quand même, tout en les maîtrisant pour pas faire trop monter les prix. Pas d'AI, c'est d'IoT, on parle même plus,
ouais,
d'IoT maintenant, on parle directement d'IA. Mais voilà, je veux faire des vélos qui soient simples, robustes, reconnaissables et extrêmement fonctionnels. C'est vraiment, alors si possible, joli, mais ça, c'est beaucoup plus difficile parce que ça reste subjectif.
Oui, alors là, je vais m'adresser à l'inventeur de vélo et à quelqu'un qui pense surtout produit et usage. Qu'est-ce qui pêche, selon vous, pour une adoption plus massive? C'est le produit ou le récit autour du produit?
pense ni l'un ni l'autre. Hein.
Plutôt, ni l'un ni l'autre.
Ouais. Ouais, non, je pense que ce qui pêche aujourd'hui, parce que le vélo, quand même, c'est pas mal démocratisé. Hein,
ouais.
Je pense que c'est la cyclabilité des villes, et même quelquefois, c'est pas les villes, enfin, des villes, des campagnes.
Des territoires. Mer,
c'est la cyclabilité. Et donc, peut-être le transport du véhicule. C'est-à-dire que quand vous partez quelque part, embarquer son véhicule, si c'est un cargo, c'est pas simple.
Ouais.
À moins d'avoir un mulier ou un petit porteur.
Ouais. Ouais.
C'est pas simple. Mais sinon, pour moi, c'est la cyclabilité des villes. En termes de vélo, il y a tout. Il y a tout, à tous les prix. Mais
donc
c'est vrai qu'un vélo électrique à l'arrière d'une voiture, c'est...
Bon. À l'arrière d'une voiture pour de la multimodalité voiture-vélo. Il est 14h25, on va écouter Abel Guggenheim. J'aurais une dernière question pour vous, Christophe Milo, mais pour l'instant, on va écouter Abel qui posait une question à Emmanuel Barbe, qui justement, lui, vient de faire un rapport sur les violences routières. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Vendredi dernier, 16 mai 2025, j'assistais à la journée annuelle Parlons Vélo Massy, au cours de laquelle, comme son nom l'indique, on parle de vélo et qui se déroule à Massy. Cette journée était comme chaque année passionnante. J'y ai animé un débat sous le titre Vélo et mobilité réduite, quelles possibilités? Mais ce n'est pas de cette table ronde que je souhaite vous parler, mais d'une autre, où intervenait Emmanuel Barbe, ancien délégué interministériel à la sécurité routière, qui a récemment rendu un rapport sur les violences routières à la suite de la mort de Paul Varry, en octobre 2024. J'ai profité de la présence d'Emmanuel Barbe pour l'interroger sur la réglementation des oreillettes pour les cyclistes. Vous l'avez sans doute observé, un certain nombre en portent, le plus souvent pour écouter de la musique, et vous savez aussi sans doute que le code de la route le leur interdit, et plus précisément le deuxième alinéa de son article R412-6-1 est interdit de port à l'oreille par le conducteur d'un véhicule en circulation de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteur de surdité. Le troisième alinéa de cet article liste quelques autres exceptions à cette interdiction. Ces alinéas ont été introduits dans cet article par un décret du 24 juin 2015, Emmanuel Barbe étant alors délégué interministériel à la sécurité routière. Il s'agissait de lutter contre le téléphone au volant dont plusieurs études montraient la dangerosité. Comme souvent, les associations d'automobilistes et les lobbies liés à l'automobile ont agi pour éviter ou au moins amoindrir les conséquences de ces mesures, ce qui a abouti, plutôt que d'interdire le téléphone en voiture, à n'en interdire que les pratiques jugées les plus dangereuses, et donc paradoxalement, à l'autoriser explicitement dans les autres conditions. Cette interdiction du port de l'oreille d'écouteurs a encouragé les constructeurs d'automobiles à sonoriser l'habitacle des voitures afin de les rendre téléphonables et donc plutôt encourager l'usage du téléphone, de même que l'autorisation du Bluetooth dans les casques des motards leur permet d'être en contact sonore permanent et réciproque avec leur donneur d'ordre. Cette interdiction des oreillettes, qui ne touche donc que les cyclistes, est un dommage collatéral d'une mauvaise négociation dont les cyclistes, à juste titre, vivent mal la conséquence. On leur explique que c'est dangereux de ne pas être en relation sonore avec le monde extérieur, mais force est de constater que lorsqu'un véhicule de secours ou de police s'approche, l'ensemble des cyclistes les repère et les entend immédiatement, alors que la plupart des automobilistes dans leur salon d'écoute insonorisé mettent bien plus de temps à réagir. C'est ce que j'ai expliqué à Emmanuel Barbe en concluant que ce n'était pas les oreillettes qu'il aurait fallu interdire, mais plutôt les micros, pour empêcher ce qui est vraiment dangereux, les conversations avec le monde extérieur. Des études précises ont montré que le risque d'accident était énormément augmenté par le fait que la personne qui conduit est à la fois dans sa voiture et à un autre endroit. Une conversation avec son voisin ou sa voisine de voiture est beaucoup moins accidentogène qu'avec une personne située ailleurs. J'ai eu l'impression qu'Emmanuel Barbe était ouvert à mes observations. Peut-être s'était-il déjà aperçu que cette réglementation n'est pas convenable. À lundi prochain.
C'était Abel Guggenheim. Christophe Milo, il va falloir répondre par oui ou non, parce qu'il est 14h29 bientôt. En écho à la chronique d'Abel, est-ce que l'adoption plus massive du vélo ne passerait pas par aussi des niveaux de confort accrus sur les vélos, le téléphone, la musique, le chauffage, le plafonnier, etc. Oui ou non?
Allez, je vais dire oui.
Eh ben, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Auditeurs, auditrices, ça y est, ce rayon libre est terminé. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, hein, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30. Je vous dis à la semaine prochaine. Mon cher Christophe, merci beaucoup.
Merci, Jérôme.
Et à bientôt, au revoir.
À bientôt.